Chapitre 2. Le chapitre 2 des Actes, vu sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 2 des Actes est couramment compris uniquement comme l'événement de la descente du Saint-Esprit. Mais le centre de ce dont parle la Bible n'est pas l'expérience du Saint-Esprit elle-même, mais la scène où l'évangile de l'eau et de l'esprit a été révélé dans l'histoire pour la première fois. Ce chapitre ne rapporte pas le jour où le salut a commencé, mais le jour où la parole du salut déjà accompli a été rendue en témoignage devant le monde. Actes chapitre 2, versets 1 à 4, la descente du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui vient après la rémission du péché. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Les versets 1 à 4 du chapitre 2 des Actes traitent de la descente du Saint-Esprit qui s'est produite le jour de la Pentecôte. La Bible témoigne « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Cette venue du Saint-Esprit sur cette terre n'est pas une descente du Saint-Esprit qui s'est produite pour résoudre le problème du péché de l'homme. Ils étaient ceux qui avaient été sauvés en connaissant et en croyant au fait que les péchés de ce monde avaient été transférés sur Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean, que le jugement du péché a été accompli sur la croix et que la justice de Dieu a été confirmée par sa résurrection d'entre les morts. Par conséquent, le baptême du Saint-Esprit ne vient pas dans le cœur de ceux qui n'ont pas reçu l'effacement du péché. Mais il vient comme l'esprit de témoignage sur ceux qui croient déjà en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Actes chapitre 2, versets 5 à 13. Les langues deviennent un signe proclamé de la langue de chaque nation. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle? Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Les versets 5 à 13 du chapitre 2 des Actes rapportent l'événement où le Saint-Esprit les a fait parler dans la langue de chaque nation. La Bible rapporte, « Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » L'essence de ces langues n'est pas un langage de prière personnelle, ni une preuve montrant une supériorité spirituelle. C'est un signe que le salut déjà accompli a été ouvert à toutes les nations. C'est une scène où l'humanité, qui avait été dispersée par la langue à la tour de Babel, est maintenant appelée à nouveau par un seul évangile. Actes chapitre 2, versets 14 à 21, c'est devenu l'ère de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs !» Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles le prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans les versets 14 à 21 du chapitre 2 des Actes, Pierre cite le livre de Joël et explique que l'ère du Saint-Esprit est venue. Il proclame « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles le prophétiseront. vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Actes chapitre 2, verset 17. Cette prophétie ne parle pas d'un mouvement de repentance ou d'une réforme éthique, mais pointe vers l'ère du témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui s'ouvrira après l'événement du salut. Lorsque le Saint-Esprit vient, les visions et les songes ne deviennent pas le but, mais le fait du salut, à savoir que le Seigneur a reçu le baptême de Jean et que les péchés du monde ont été transférés sur lui, et révélés avec la croix. Actes chapitre 2, versets 22 à 24, le centre de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'évangile du salut accompli par le baptême que Jésus a reçu de Jean et le sacrifice de la croix. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dans les versets 22 à 24 du chapitre 2 des Actes, Pierre témoigne clairement du centre de l'Évangile. Il dit « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. » Ce sermon sur la croix n'est pas une histoire de sacrifice flottant dans le vide. Dans le contexte précédent, le fait que Jésus a pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême dans le fleuve Jourdain est présupposé. La croix n'est pas le lieu pour se charger du péché, mais le lieu où le jugement a été subi pour les péchés dont il s'était déjà chargé. Actes chapitre 2, versets 32 à 36, il l'a fait à la fois Seigneur et Christ. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dans les versets 32 à 36 du chapitre 2 des Actes, Pierre déclare que Dieu a fait de Jésus à la fois Seigneur et Christ. Il dit « Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié ». Cela ne signifie pas que Jésus a fait des efforts pour devenir Seigneur, ni qu'il est devenu Seigneur par la foi des gens. C'est la parole selon laquelle Jésus-Christ est celui qui a accompli notre salut en ayant les péchés du monde transférés sur lui par le baptême qu'il a reçu de Jean en recevant la punition pour le péché sur la croix et en ressuscitant d'entre les morts. Actes chapitre 2, verset 37. Que ferons-nous? Le choc de ceux qui prennent conscience du salut déjà accompli. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Dans le verset 37 du chapitre 2 des Actes, la foule répond, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Cette parole n'est pas une explosion de culpabilité ni une demande pour une prière de repentance. C'est le choc de voir que leurs péchés ont été résolus par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par le sang de la croix. Actes chapitre 2, verset 38, « Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, et recevez la rémission des péchés. » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Dans le verset 38 du chapitre 2 des Actes, Pierre dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Ici, la parole d'être baptisé au nom de Jésus-Christ et de recevoir la rémission des péchés est une exigence de la foi, selon laquelle, parce que Jésus a reçu le transfert des péchés du monde en étant baptisé par Jean, il nous a sauvés en recevant le jugement pour le péché sur la croix. C'est-à-dire que cela signifie que l'on doit recevoir la rémission des péchés en croyant en la vérité que le baptême que Jésus a reçu de Jean est le fait que les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus et qu'il a déjà subi le jugement pour ses péchés en étant pendu sur la croix et en versant son sang. Actes chapitre 2, versets 41 à 47, la naissance de l'Église de Dieu, la communauté de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient à chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompèrent le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les versets 41 à 47 du chapitre 2 des Actes montrent la naissance de l'Église. L'Église primitive n'est pas une communauté luttant pour atteindre la sanctification. Elle était une communauté où ceux dont la rémission des péchés était déjà accomplie se rassemblaient pour vivre une vie de foi. En conséquence, l'assurance de la foi et la propagation de l'Évangile sont apparues à travers eux. Et le nombre de personnes sauvées augmentait de jour en jour. En conclusion, le fait historique de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le chapitre 2 des Actes témoigne du fait que le Saint-Esprit vient après la rémission des péchés. Le centre de l'Évangile n'est pas une expérience subjective, mais un événement historique. Et la repentance n'est pas un débordement d'émotions, mais un revirement de la foi. L'Église n'est pas un lieu qui fabrique le salut, mais une communauté qui témoigne du salut déjà accompli. Lorsque l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est proclamé, l'œuvre du Saint-Esprit suit assurément, et l'œuvre du Saint-Esprit coule toujours uniquement dans la direction du témoignage du baptême de Jésus et de la croix. C'est la structure réelle de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dont parle le chapitre 2 des Actes, un sermon de Paul Sijong. La parole des versets 1 à 47 du chapitre 2 des Actes est couramment appelée l'événement de la descente du Saint-Esprit. Mais si nous regardons cela du point de vue de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit prêché par le pasteur Paul Sijong, elle montre comment le salut déjà accompli apparaît comme une évidence dans le cœur des gens au-delà d'un simple récit de la présence de l'Esprit. Le chapitre 2 des Actes témoigne clairement que le commencement de l'Église n'était pas une émotion, une expérience ou une organisation humaine, mais uniquement l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Lorsque le jour de la Pentecôte fut tout à fait arrivé et que les disciples étaient rassemblés dans un même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Jésus avait déjà pris sur lui tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain. Et il a accompli le salut éternel en recevant le jugement pour ses péchés sur la croix et en ressuscitant de la mort. Par conséquent, la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte est une œuvre de témoignage confirmant par la puissance du Saint-Esprit le fait que le salut déjà accompli est vrai. Lorsque les disciples furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, les personnes rassemblées furent étonnées, disant « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Le point important ici est que la raison pour laquelle les gens étaient étonnés n'était pas à cause du phénomène mystérieux lui-même, mais parce qu'ils entendaient les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Les merveilles de Dieu ne signifient pas les langues elles-mêmes, mais l'Évangile de l'eau et de l'Esprit accompli par Jésus-Christ. L'œuvre du Saint-Esprit guide toujours le regard des gens vers le ministère de salut de Christ. Pierre, devant les foules qui comprenaient ce mal, a cité la prophétie du prophète Joël et a placé le centre de son sermon uniquement sur Jésus-Christ. Il n'a pas expliqué d'émotions ou d'expériences mystiques, mais a proclamé que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Le sermon de Pierre a pour prémisse sous-jacente que Jésus a reçu le baptême dans le fleuve Jourdain pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, et qu'il a reçu le jugement pour le péché sur la croix. Être rempli du Saint-Esprit ne fait pas référence au fait d'élever la voix, mais à l'état de savoir clairement à quel point le salut que Jésus a accompli est parfait et de le prêcher par la foi. Or, lorsqu'ils entendirent le sermon de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Ce serment de cœur n'est pas une simple culpabilité morale, mais une réaction de vérité en prenant conscience que Jésus, qu'ils avaient renié, est le véritable sauveur. Le Saint-Esprit n'est pas celui qui est venu pour faire pleurer les gens de manière sentimentale, mais celui qui leur fait prendre conscience de la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En conséquence, Pierre a exhorté « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ici, la repentance n'est pas un acte pour laver le péché, mais un détournement de la fausse foi, et le baptême n'est pas une condition de salut, mais il est reçu comme une confession de foi de ceux qui croient en l'évangile de la rémission des péchés accomplis par l'eau et le sang. En ce jour-là, environ 3000 âmes furent ajoutées, et l'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La force motrice qui leur a permis de partager leurs biens, de prendre leur nourriture avec joie et simplicité de cœur et de louer Dieu n'était qu'une seule chose. C'était parce qu'ils avaient l'assurance que le problème de leur péché était complètement résolu par le baptême que Jésus a reçu de Jean et par la croix. La communauté qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit devient remplie d'une joie et d'une assurance que le monde ne peut contenir. Le chapitre 2 des Actes nous demande aujourd'hui comment nous comprenons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas la ferveur de l'émotion, mais le témoin de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit n'est pas l'ampleur de l'expérience, mais la confession de foi, que le baptême que Jésus a reçu de Jean et la croix ont éternellement résolu tous mes péchés. C'est le fait que Jésus a reçu le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et qu'il a subi le jugement pour le péché sur la croix. Et le Saint-Esprit confirme cela dans le cœur de ceux qui croient en la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. La Bible dit que le cœur de celui qui croit en cette parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit est véritablement celui qui est rempli du Saint-Esprit. Elle dit que l'Église, prêchant cet Évangile de l'eau et de l'Esprit, est l'Église même de Dieu. À propos de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que Pierre a prêché aux Juifs dans Actes, chapitre 2, versets 38 à 47. La parole des versets 38 à 47 du chapitre 2 des Actes n'est pas une scène où Pierre a présenté une nouvelle méthode pour obtenir le salut aux Juifs, mais une scène où il a clairement expliqué et rendu témoignage à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui était déjà révélé dans la Bible. Vu sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit prêché par le pasteur Paul Sijong, le sermon de Pierre n'est pas un sermon légaliste exigeant des élans émotionnels pour la repentance ou des œuvres, mais il contient une déclaration claire de l'évangile concernant ce que vous croyez faussement et ce que vous devez croire maintenant. Dans la parole où Pierre s'est écrié « Repentez-vous », la repentance ne signifie pas simplement confesser ses péchés en pleurant beaucoup. Puisque les Juifs étaient déjà un peuple qui offrait des sacrifices quotidiennement sous la loi et cherchait l'expiation, la repentance dont a parlé Pierre ne signifie pas une repentance des œuvres, mais un changement de direction de la foi. C'était un message puissant pour retourner dans le sein de Jésus en croyant en la vérité que, tout en disant qu'ils attendaient le Messie, ils avaient renié Jésus qui était réellement venu et qu'il avait reçu le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui et qu'il était allé à la croix. À la suite de cela, il a été dit que chaque personne devait être baptisée au nom de Jésus-Christ et obtenir la rémission des péchés. La raison pour laquelle les Juifs ont reçu le baptême après avoir entendu le sermon de Pierre était parce qu'ils ont pu avoir la foi croyant que Jésus est le Sauveur qui a donné le salut en recevant le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur son corps et en recevant le jugement pour le péché sur la croix. La foi croyante au baptême que Jésus a reçu de Jean, en particulier le baptême que Jean a donné au corps de Jésus, contenait le concept de l'imposition des mains qui transfère les péchés du peuple une fois pour toutes, tout comme dans les sacrifices du jour des expiations de l'Ancien Testament. Par conséquent, cette parole devait être vue comme la foi qui croit au fait que Jésus s'est déjà chargé de vos péchés par le baptême dans le fleuve Jourdain et qui confesse publiquement cette foi par le baptême. Ensuite, à la question de savoir quand la rémission des péchés a été accomplie, la Bible présente une réponse claire. C'est que la rémission des péchés ne s'est pas produite à la Pentecôte, mais a déjà été accomplie lorsque Jésus a reçu le baptême de Jean au fleuve Jourdain pour que les péchés du monde soient transférés sur son corps et qu'il a reçu le jugement pour le péché concernant ses péchés sur la croix. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte est le jour où le Saint-Esprit a rendu témoignage au fait que la rémission des péchés accomplis est vraie, et c'est l'évangile où Pierre a pu proclamer de croire au baptême que Jésus a reçu de Jean et de recevoir la rémission des péchés, parce que le problème du péché était déjà réglé devant Dieu. Même dans la parole, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, l'ordre du salut apparaît clairement. Elle dit que ce n'est que lorsqu'on croit au baptême que Jésus a reçu de Jean, par lequel il a pris sur lui les péchés du monde, et au sang versé sur la croix, que l'on reçoit la rémission des péchés, et qu'en même temps le Saint-Esprit vient dans son cœur. Le Saint-Esprit ne vient pas à une personne qui a encore du péché dans son cœur, mais c'est le Saint-Esprit qui vient pour confirmer que le salut a été accompli pour ceux qui croient au fait que les péchés du monde ont été lavés uniquement par le ministère de Jésus. Le rôle du Saint-Esprit a toujours été l'Esprit de Dieu qui grave dans le cœur croyant qu'il a été témoigné par la parole de Dieu que le baptême que Jésus a reçu de Jean et la croix ont complètement résolu tous nos péchés du monde. La déclaration selon laquelle, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, montre la certitude de l'évangile de l'eau et de l'Esprit. La vérité du salut accompli par le baptême que Jésus a reçu de Jean et la punition de la croix n'est pas limitée à une époque ou à un peuple spécifique, mais s'applique également à tous les peuples. La méthode de salut du péché ne change jamais, et les trois témoins de l'eau, du sang et de l'esprit rendent toujours témoignage ensemble dans l'histoire humaine et confirment le salut obtenu par la foi. L'apparence de la communauté décrite dans la dernière partie du chapitre 2 des Actes, persévérant chaque jour tous ensemble au temple et rompant le pain dans les maisons, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, est la caractéristique de l'Église de Dieu. La force motrice qui leur a permis de partager volontairement leurs biens et de vivre en louant Dieu découlait de l'assurance que le problème de leur péché était complètement résolu une fois pour toutes, et de la nourriture de la foi selon laquelle ils ne sont plus condamnés devant Dieu. Parce qu'ils ont échappé au fardeau du péché et ont obtenu l'assurance du salut, ils ont pu assurément profiter de la vie de foi à l'intérieur du royaume de Dieu, avec joie et sans crainte. En fin de compte, le cœur de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Pierre a prêché est le fait que Jésus, que vous avez jugé en ne regardant que la croix, était l'agneau de Dieu qui a pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean. Le problème de la punition pour le péché a déjà été réglé sur la croix lorsque Jésus a reçu le baptême de Jean et que les péchés du monde ont été transférés sur lui une fois pour toutes. Et le Saint-Esprit rend témoignage au fait que cet évangile de l'eau et de l'Esprit est vrai. C'est l'évangile de l'eau et de l'Esprit que l'Église primitive a propagé. Et il a montré que seuls ceux qui croient en cette vérité pouvaient recevoir la véritable rémission des péchés et recevoir le don du Saint-Esprit. Questions et réponses sur le chapitre 2 des Actes. Première, comment les langues du Saint-Esprit de l'Église primitive sont-elles apparues? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans notre langue maternelle, Parthésmède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Actes, chapitre 2, versets 8 à 13. Dans cette parole, cela signifie que les citoyens de 15 pays qui étaient déjà venus et résidaient dans la nation d'Israël ont compris les langues que les disciples de Jésus parlaient comme la langue de leur propre pays. Quant à la raison pour laquelle les langues étaient nécessaires à l'époque de l'Église primitive, nous pouvons le savoir à travers cette parole. Premièrement, c'est que Dieu les a fait parler en langue pour la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit. À notre époque, il y a des traducteurs qui traduisent les langues de chaque pays, il n'y a donc pas besoin de cela. Mais à l'époque de l'Église primitive, parce qu'un tel système de traduction n'était pas établi, lors de la prédication de l'Évangile au peuple de chaque pays, en parlant des langues que Dieu donnait spécialement, les auditeurs devaient comprendre dans la langue de leur propre pays. Les langues étaient l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, il y a des langues où un individu converse directement avec Dieu. De telles langues ne doivent pas être pratiquées devant le public, mais doivent l'être lorsque l'on prie seul. En ce qui concerne les langues, on peut les parler ou ne pas les parler. mais les parler de manière à ce que cela devienne bénéfique pour les autres et biblique. Deuxième, l'œuvre du Saint-Esprit à la Pentecôte, rapportée dans le chapitre 2 des Actes, est-elle un accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament ? C'est la parole qui se trouve dans le chapitre 2 de Joël, au verset 28 et suivant dans l'Ancien Testament. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles le prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera, Joël chapitre 2, versets 28 à 32. Cette parole est citée dans le chapitre 2 des Actes, au verset 17 à 21. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Actes, chapitre 2, versets 17 à 21. Quel était le don du Saint-Esprit qu'un individu reçoit à l'ère du Nouveau Testament ? Contrairement à la parole de prophétie promettant d'envoyer le Saint-Esprit dans le chapitre 2 de Joël, versets 28 et 29 de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit donné à chaque individu est le don du Saint-Esprit reçu par la foi en Jésus-Christ, qui a pris en charge les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, a reçu le jugement du péché sur la croix, est ressuscité de la mort et est devenu notre sauveur. Le Saint-Esprit, que les croyants reçoivent de maintenant à l'ère du Nouveau Testament, est le Saint-Esprit reçu lorsque l'on a reçu la rémission des péchés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit doit être reçu comme un don lorsqu'il y a la foi croyant en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le cœur. Le fondement de cela est rapporté dans le chapitre 2 des Actes, au verset 38 à 41. Pierre leur dit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent de baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3 000 âmes.